silence.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Entre-deux-Mers 98.4 FM, www.re2m.com. C'est l'heure de conversation autour du cinéma avec Anne. Bonjour Anne.
Excuse-moi de rire.
Tu fais bien, mais c'est les habitudes à force.
En fait, je suis matinale normalement, mais pas dans la matinale. Non, moi c'est le... Pardon, c'est le cinéma. Oui, bonjour. Bonjour Damien.
Comment ça va? Bonjour
à nos petits chéris qui ont la gentillesse de nous écouter. Peut-être en direct ou peut-être dans les podcasts, c'est possible,
qui refonctionnent après un souci maintenant aussi, la connexion internet refonctionne.
Donc on
peut nous écouter sur le www.re2m.com et sur ce même site, on peut écouter les podcasts toutes les semaines,
oui,
ils sont mis
oui,
à jour.
Podcasts. Mais nous on fonctionne aussi, hein, Damien, je crois qu'on fonctionne.
Aussi, on est là, en direct.
En direct, et j'espère vous mes chéris que vous fonctionnez aussi en tout cas. Bon ben ah oui, je voulais quand même il y a un petit truc que je voulais ajouter parce que on a parlé le 25 septembre du passage de Downton Abbey, le film,
oui.
Downton Abbey. Et alors j'avais dit j'étais pas contente de moi là parce que j'avais dit oui, ils reçoivent un roi, tout ça, le roi avec la reine, tout ça. Ah mais quel est le nom du roi? Et j'ai hésité, j'ai préféré ne pas donner de nom. Parce que je savais plus trop. Alors, je rectifie. Ils reçoivent effectivement George V et la reine Marie de Teck. Voilà. Donc, George V, de l'époque, hein, ça, puisque ça se passe, Downton Abbey, ça se passe en 1927, hein, c'est à peu près les années 27. Donc, le roi George V, qui est devenu roi d'ailleurs à l'âge de 45 ans, en 1936. Il est décédé en 1936 également. Et il a été son successeur, c'était Édouard VIII. Édouard VIII, c'est le monsieur qui a abdiqué. Il a abdiqué presque aussitôt. Il est resté 10 mois, je crois. Puis il a abdiqué, et c'est donc Élisabeth actuelle, la reine Élisabeth actuelle, Élisabeth II, la reine actuelle, là, qui a donc pris le trône, hein, à la place de son oncle qui avait démissionné. Voilà. Il a eu en fait Édouard VIII, après il y a eu George VI, pardon. Ouais, c'est ça. Et George VI est mort très jeune, et donc c'est pour ça qu'Élisabeth II a été couronnée reine à 26 ans, je crois, ce qui est quand même très jeune. Voilà, parce que son père est mort relativement tôt, puisqu'il avait il avait 56 ans, je crois, le... Voilà, mais enfin en tout cas, dans Downton Abbey, c'est George V et la reine Marie de Teck. Voilà,
d'accord.
Qui viennent au château visiter. Donc c'est l'effervescence et tout, hein, évidemment. Hein, quand on reçoit un roi et une reine,
et oui.
c'est pas rien.
Forcément, voilà. Ça fait plaisir. Hein.
Je voulais quand même rectifier un petit peu, parce que j'ai étudié finalement la famille un peu là, et j'ai dit ouloulouloulou. Voilà, et moi je n'aime pas ça, rester hésitante comme ça sur un film. Donc je voulais ajouter ça. Bien.
Et donc maintenant, cette semaine, en ce mercredi 9 octobre,
ouais.
Il y a des films qui sortent.
Ah oui, 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 Damien, il y a des films qui sortent. Alors, je suis contente parce que j'ai quand même deux ou trois animations. 2 ou 3 films d'animation qui sont très beaux, bien sûr. Dans la mesure du possible, on essaie quand même de mettre de côté plutôt ceux qui sont très réussis, quoi, parce qu'il y en a énormément qui sortent. Bon, ils sont pas tous formidables, hein, mais on essaie quand même, ici à Radio Entre-deux-Mers, on essaie de sortir les meilleurs, de mettre de côté les meilleurs. Je vais commencer par une animation, c'est pour la famille, hein, c'est une animation vraiment famille, c'est allemand, c'est belge, ça s'appelle La Grande Cavale. C'est à partir de 6 ans, oui, ma petite Naya va pouvoir y aller. Sans problème, ça dure 1h25, c'est l'histoire de Marnie. Marnie, c'est une petite chatte d'intérieur qui est passionnée d'enquête policière. Elle apprend que des cambriolages ont lieu dans son petit village de campagne. Ravie de quitter son confort, elle part en mission secrète pour arrêter les malfaiteurs. Marnie trouve de l'aide auprès de 3 animaux farfelus. Il y a un coq, fan de yoga. Il y a un drôle de zèbre et un chien de garde, Froussard, ça existe. Accusés à tort d'être les voleurs, ils sont entraînés dans une aventure poilante pour prouver leur innocence. Alors, il y a 2 co-réalisateurs dans cette affaire-là. Il y a Christophe, c'est deux frères jumeaux, hein. C'est des jumeaux, des frères jumeaux qui travaillent toujours ensemble. Ils ont 57 ans, bien sûr, tous les deux, puisqu'ils sont jumeaux. C'est Christophe et Wolfgang Launstein, qui sont des réalisateurs, scénaristes allemands, bien sûr, animateurs également. Et ils ont leur film, La Grande Cavale, a une nomination hors compétition au Festival international du film policier de Beaune. En 2019. Voilà, c'est quand même... ils ont déjà eu des prix, hein, d'ailleurs, tous les deux. Ils avaient eu un prix pour un court-métrage, le meilleur court-métrage. Ils avaient aussi un prix quand même aux Oscars, hein, pour un court-métrage, voilà. Donc, ils font du bon travail, les frères jumeaux, là. Alors, La Grande Cavale, en fait, le film est inspiré des musiciens de Brême. C'est une histoire écrite par les frères Grimm. Je pense que vous connaissez, mes chéris, tu connais, toi, Damien, l'histoire
des frères Grimm, oui.
Hein, l'histoire des musiciens de Brême. C'est un petit âne, c'est un âne que son maître voudrait faire disparaître, en fait. Hein. Il veut s'en débarrasser. Et quand il s'en rend compte, l'âne, il s'enfuit. Il s'enfuit parce qu'il a l'intention de devenir musicien. Voilà. Et en route, il va rencontrer un coq et un chat. Donc, La Grande Cavale s'est inspirée, hein, est inspirée de cette histoire. Alors, l'idée, en fait, c'est 4 animaux qui fuient leur maison et qui utilisent leur qualité pour s'en sortir. C'est ça, le truc. Et c'est quand l'aventure vous appelle, il faut une équipe super motivée. C'est vraiment adorable comme tout. Moi, j'ai trouvé ça très chouette. Écoutez, hein, de toute façon, j'espère que ça vous...
Et est-ce qu'on écoute une bande-annonce pour se rendre compte?
Ah, si t'en as une de côté, allez. Ah oui, pas de souci, là.
La suspecte vient de sortir. Restez là. La cible est repérée.
Oh non, il a l'air complètement rasé, il va parler.
Marnie est un chat d'intérieur, elle ne sort jamais.
Interdit.
Voici les infos.
Un nouveau cambriolage a été commis ce matin dans la commune de Drapeville, à la ferme de la famille Mott.
Ici, les habitants sont révoltés par ce cambriolage.
On a des policiers complètement nuls.
Ces infos sont de plus en plus pénibles à regarder.
Enfin, j'ai une enquête à mener, moi.
C'est le jour du bouillon de poule de Monsieur Hansen.
Pourquoi ce fermier ne peut pas décider lui-même qui doit aller dans la marmite?
Qui est pour Eugène?
Intérêt à bien faire ton boulot de chien de garde, compris?
Je me fais la veine!
Coucou, je suis là! Est-ce que par hasard on pourrait covoiturer? Je vous mettrai 4 étoiles pour la conversation.
Ma petite Marnie est perdue. Elle ne connaît rien à la vie.
Je suis l'agent spécial Marnie de Charme. Et j'enquête sur les cambriolages qui ont été commis dans la région.
Oh, les chats. Ils se croient toujours les meilleurs.
Si on travaille en équipe, on peut découvrir qui est cette bande de voleurs.
Il semblerait que votre minette appartienne à une bande de voleurs en cavale.
La vitesse est limitée à 30.
Les panneaux de limitation, je vais te montrer à quoi ça sert.
Dans le mille, Elvis, quand on voyage avec un pro comme toi, on se sent vraiment en sécurité.
Tu veux que je te dise ce qui me plaît chez toi, Elvis?
Eh ben, vas-y.
T'es sûr de pouvoir piloter cet engin?
C'est comme une camionnette, non?
Oh, Elvis, il pleut pas!
Arrêtez-vous! Police! Ils sont pas là!
Droit devant!
Voilà la grande cavale, donc, avec un zèbre, un coq, un chat et un chien. Voilà l'équipée.
Bah oui, comme dans les animaux de Brême, oui, effectivement. C'est ça. C'est très joli, très très joli. Puis ensuite, j'ai une animation, pareil, c'est pour la famille. C'est polonais et c'est letton. Et ça s'appelle Jacob et les chiens qui parlent.
Là, on est dans un tout autre genre de film d'animation.
Ah, complètement, oui. Ça dure 1h10. Ah oui, oui, oui. Alors, c'est mignon comme tout. Hein. C'est vraiment... Les personnages sont sympathiques. Les dessins sont très sympathiques. C'est un film de Edmund Jansson, qui est un réalisateur d'animation. Il est letton, il a 47 ans. Il est écrivain également, d'ailleurs. Et il a réalisé, pour donner une idée, pour ceux qui connaissent, hein, Michel, je ne sais pas si vous connaissez, les chamises. Monsieur Chat et les chamises qui étaient sortis, on en avait parlé ici, à l'antenne, en 2016. Hein. Ce sont des personnages en patchwork et brin de laine. Hein. Et c'est lui qui les a créés. Il a été primé, d'ailleurs, pour ça, pour les chamises. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit, là ? Ben, on nous dit que l'histoire est tirée du livre Dog Town de Louise Pastoré. La ville des chiens, hein, Dogtown, la ville du chien. C'est une fable écologique et philosophique qui est pleine d'aventures et de magie. Quand son père doit s'abstenir de... Oh là là, oui, bon, on va recommencer là. Hein.
Quand son père doit s'absenter.
Merci Damien pour son travail. Jacob est à son grand regret obligé de passer une semaine chez son oncle Ange et sa cousine Mimi qui vivent en périphérie de Riga, à Masachka, qui est un quartier populaire presque rural. Le séjour tant redouté va prendre une tournure inattendue quand, avec l'aide de drôles de chiens qui parlent, Jacob et Mimi vont tenter de sauver le vieux quartier d'un colossal et destructeur projet immobilier. Ah oui, là, ça rigole pas, c'est sérieux, là. Hein. Mais c'est vraiment... Je voulais en parler parce que j'ai dit 1h10, hein. Parce que c'est vraiment mignon, joli comme tout, quoi. Voilà, je trouve. Et puis, oui, puis là, bon, ben, il n'y a pas d'âge, en fait. Ma petite Naya, elle pourrait peut-être y aller. Ça lui ferait pas mal de voir une petite fable écologique. Oui, oui, il faudra que je lui dise.
Et un autre film d'animation.
Une animation italienne et française. La fameuse invasion des ours en Sicile. Ça, c'est le titre. Hein. C'est un titre qui est très long, ça. Tout commence le jour où Tonio, le fils du roi des ours, est enlevé par des chasseurs dans les montagnes de Sicile. Profitant de la rigueur d'un hiver qui menace son peuple de famine, le roi décide alors d'envahir la plaine où habitent les hommes. Avec l'aide de son armée et d'un magicien, il réussit à vaincre et finit par retrouver Tonio. Mais il comprend vite que le peuple des ours n'est pas fait pour vivre au pays des hommes. Point de suspension. Ça dure 1h22, c'est de Lorenzo Mattotti, qui est un réalisateur, chef décorateur, créateur graphique des personnages. Il fait plein de choses, Lorenzo Mattotti, ça fait un bon bout de temps déjà. Il a sorti beaucoup de très beaux films d'animation. Il a 65 ans, il est italien, je ne sais pas si je l'ai dit. Alors son film a 6 nominations au Festival de Cannes 2019, plus une nomination au Festival du film francophone d'Angoulême. 2019, et 3 autres nominations au Festival du film d'animation d'Annecy, en 2019. Il a été très primé, son film. C'est vrai qu'il est très beau, vraiment. Et c'est quand même... Alors, Lorenzo Mattotti, oh, c'est juste comme ça, c'est pour dire, hein, qu'il a réalisé en 2000 l'affiche du Festival de Cannes. C'est lui qui l'avait... C'est ce qui prouve qu'il a quand même un grand talent graphique, quoi, de graphisme. Il lui avait demandé, il avait accepté de faire cette affiche. Voilà, alors le film, La fameuse invasion des ours en Sicile, est inspiré d'un roman pour enfants qui a été écrit par Dino Buzzati et qui est sorti en 1945. Et Lorenzo Mattotti a voulu absolument être très fidèle au livre. Donc le film est très fidèle au livre. C'est chouette comme tout. Voilà. Alors, le vieil ours, la voix pour le vieil ours, c'est Jean-Claude Carrière. Jean-Claude Carrière, on le connaît. C'est un scénariste, dialoguiste français qui est très, très, très célèbre. Il a 88 ans et c'est lui la voix du vieil ours. Et dans le, on a aussi dans les voix françaises Leïla Bekhti. Alors, Leïla Bekhti, on en a parlé. On a parlé d'elle pour la sortie du film J'irai où tu iras, le 2 décembre. le film de Géraldine Nakache, parce qu'elle a, elle a le il y a deux rôles principaux, dont celui de Leïla Bekhti dans Géroture. Eh bien voilà, elle a fait une voix dans ce film d'animation, La fameuse invasion des ours en Sicile. Et c'est très, très, très chouette.
Et je pense qu'on peut écouter la bande-annonce.
Oui, merci, Damien.
Tu ne quittes pas les yeux et hop, allez, attrape Tonio. Ah,
papa !
Tonio !
Léonce, qui te dit que Tonio n'est pas chez les hommes ?
Tonio ? Mais qu'est-ce qu'on attend ? Avec moi, le clan !
Des bêtes sauvages vont descendre des montagnes pour envahir la Sicile.
Une invasion de ours.
Massacrez-les.
Qui es-tu?
Professeur des Ambrosis, magicien et ami des ours.
Mais qu'as-tu fait?
J'ai conquis la Sicile pour te retrouver. Et regarde-toi, tu voudrais être un homme. Tu n'es même pas un ours, incapable de pêcher un saumon.
Voici la fameuse invention des ours en Sicile.
C'est joli. Hein. C'est
oui, très, ça a l'air joli. Très très beau.
Et, ouais. Ah oui, mais les récompenses ne sont pas volées là quand même. Hein. Parce que ça lui a fait quand même presque 10 nominations. Là. Un peu partout dans les festivals. Hein. C'est mérité. Je suis très contente pour lui. J'espère qu'il va nous en faire encore beaucoup d'autres. Lorenzo Mattotti, parce qu'il est connu pour faire de très jolies choses. Quoi.
Et ensuite, maintenant, on continue avec un film cette fois.
Oui, on n'est plus animé là. On va devenir fixe. Hein. On ne s'anime plus. Là, on fait dans le long métrage avec acteurs, avec des histoires. La première, j'ai mis de côté une aventure française qui s'intitule « Donne-moi des ailes ». J'aime bien, c'est joli comme titre, ça. Alors, c'est de Nicolas Vanier. Nicolas Vanier, réalisateur, scénariste, il est acteur aussi, d'ailleurs, français. Il a 57 ans, il est très connu, lui, hein, parce qu'il a fait beaucoup de documentaires qui parlent, par exemple, en 2013, on a commencé, il a fait « On lui doit Belle et Sébastien ». Avec Checky Cario et Margot Châtelier. Ensuite, en 2014, on lui doit le documentaire magnifique « L'Odyssée sauvage ». On se souvient, je pense, pour ceux qui l'ont vu, quoi, des chiens de traîneau sur un lac, sur le lac Baïkal, les rives gelées du lac Baïkal en Sibérie, c'était magnifique, magnifique ces chiens de traîneau là. Et puis en 2017 aussi, on lui doit l'école buissonnière qui a eu un très très gros succès. Avec François Cluzet, Valérie Carcenti dans les rôles principaux. Hein. Il me semble qu'il y avait aussi Eric El Mosnino, aussi dans l'école buissonnière. Donc, il fait du sacré travail, Nicolas Vanier. C'est très beau tout ce qu'il fait. Là, c'est l'histoire de Christian. Christian est un scientifique visionnaire. Il étudie les oies sauvages. Pour son fils adolescent, omnubilé par les jeux vidéo, eh oui, l'idée de passer des vacances avec son père en pleine nature est un cauchemar. Pourtant, père et fils vont se rapprocher autour d'un projet fou, sauver une espèce en voie de disparition grâce à l'ULM de Christian. Commence alors un incroyable et périlleux voyage. C'est beau, 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 ça dure 1h55. Alors, Christian, c'est Jean-Paul Rouve, on le connaît, Jean-Paul Rouve, l'acteur, excellent acteur et réalisateur d'ailleurs aussi. On a Mélanie Doutet également, c'est un beau casting. Hein. On a le fils adolescent, là, Thomas, qui a 15 ans d'ailleurs, l'acteur a 15 ans, c'est Louis Vasquez. Il est assez formidable dans ce film, Louis Vasquez. C'est... Pour 15 ans, c'est pas mal du tout ce qu'il fait. On a Frédéric Sorel, Lilou Fogli, on la connaît. Dominique Pinon, on le connaît aussi. Grégory Baquet, on les connaît tous. C'est un chouette casting. Et donc, c'est en fait l'Odyssée, tout ça, j'en avais parlé. Ah oui, il y avait aussi Le Dernier Trappeur de Nicolas Vanier, oh là là, qui a fait aussi, qui a eu un gros, gros, gros succès. Alors là, il a voulu parler de nature et de relations humaines. Dans ce film, voilà. Il a, d'ailleurs, il a, quand il a commencé le tournage avec Mélanie Douté et Jean-Paul Rouve, il, dès le début, il leur a dit « Sachez que j'aurai aussi besoin de vous après afin de mener à bien le projet pour réintroduire pardon, Loanen dans la nature. » C'est ce qu'il leur avait dit. Avant, il leur avait dit hein, « Sachez que j'aurai besoin de vous. » Donc, il savait déjà... qui serait dans ce film-là, hein, Jean-Paul Rouve et Mélanie Douté. C'est quand même... Moi, je suis soufflée par ce genre de film, quand même, hein, parce que c'est du jamais vu, quoi. Il y a des scènes extraordinaires dans l'ULM, là, avec l'ULM. Oh, mais des scènes fantastiques, quoi, avec l'ULM et les oies, c'est vraiment... c'est bon, voilà, quoi. C'est... En fait, le Donne-moi des ailes, c'est un film qui puise dans des thématiques qui sont très chères, d'ailleurs, à Nicolas Vanier, bien sûr. Hein, le thème de la transmission entre générations. Alors, en l'occurrence, là, c'est entre un père et son fils. Mais aussi, c'est le portrait, il nous fait le portrait d'un homme passionné, tellement engagé dans ce qu'il fait, qu'il en oublie parfois l'essentiel de la vie, les amours, la famille, les amis, etc. Tout ce qui fait qu'une vie est riche, hein, il oublie aussi à cause de sa passion, quoi. Alors voilà, il voulait aussi parler de reconstruction familiale, justement, à travers ce film. Alors c'est voilà, le peuple, il nous rappelle d'ailleurs que Le Peuple migrateur, qui était un film de Jacques Perrin, un film absolument magnifique, hein, qui est sorti déjà il y a pas mal de temps, hein. Mais il a étudié le, il sait que la technique actuelle lui permettait d'aller encore plus loin que dans le film de Jacques Perrin. Il pouvait faire encore plus de choses, quoi. C'est pour ça que c'est fabuleux, quoi. Il nous dit qu'il y a aujourd'hui des technologies qui permettent d'utiliser des caméras qui se positionnent précisément par rapport à l'horizon. Grâce à un GPS. Alors, c'est fou, ça. Une caméra qui a un GPS, quoi. Ça n'existait pas à l'époque de la sortie du peuple migrateur. Quel dommage, parce qu'on aurait eu encore des images encore plus fabuleuses. Alors, évidemment, cette caméra-là, avec ce GPS, ça permet d'obtenir des images et très stables, quoi. Extrêmement stables. Hein. Ça passe outre les vibrations. Il y a une stabilité extraordinaire qui n'existait pas avant, bien sûr. Voilà, donc c'est... Moi, je le conseille parce qu'il est vraiment très beau, que ce serait dommage de passer à côté. Sinon, le DVD sortira très bientôt. Et mes chéris, si vous n'avez pas le temps d'aller voir le film, vous pourrez au moins acquérir le DVD.
On va écouter la bande-annonce.
Ah oui, merci, Damien.
Je ne vais pas m'occuper de toi pendant les vacances. Désolé. Tu vas aller chez ton père, à Saint-Romain.
Bah non, c'est moi, je ne reste pas ici. Hein. Ouais, maman, je m'ennuie. Viens me chercher, s'il te plaît.
Qu'est-ce que tu fais toute la journée dans le garage?
Je fais un truc secret dans le garage. Certains oiseaux reconnaissent pour parent la première personne qu'ils voient. Donc là, techniquement, t'es son père.
Oui.
Tu vois cette espèce d'oie? Elle est menacée. Alors pour la sauver, j'étudie un nouvel itinéraire qui est moins dangereux pour aller jusqu'en Norvège. Pour qu'elle le suive, bah, il faut que je leur montre la route.
Pour la Norvège, c'est évident, ils veulent pas sur ton truc, hein.
Mais bien sûr.
Qu'est-ce que je vous avais dit? De ne pas sortir les oies sans mon autorisation.
Peut-être prendre les oies.
Non, attendez! Stop! Thomas!
Vous restez bien avec moi, hein, les filles.
Il est où, mon fils?
Traverser la mer du Nord.
Mais la mer du Nord, non, mais c'est une blague.
Non, mais ça va aller.
Non, mais quoi, ça va aller? Mais t'en sais rien si ça va aller, Christian.
Cette formidable aventure connaît un retentissement extraordinaire.
Faut qu'il redresse vers l'est, parce que sinon, c'est plein de mer.
Donne-moi des ailes de Nicolas Vanier avec de superbes paysages.
C'est très beau. C'est inspiré, hein, je le répète, hein, d'une incroyable histoire vraie quand même. Hein.
Oui, oui.
Bien sûr, ça a vraiment, c'est vécu, hein, c'est du vécu. Hein, c'est pas du cinéma d'invention. Hein, c'est du vécu, ce qui donne encore plus de charme à ce film. Puis c'est vrai que Jean-Paul Rouve, Mélanie Douté, Louis Vasquez, bon voilà, ils sont assez impressionnants là comme comédiens. Bah les autres aussi, mais eux, je parle d'eux parce qu'on les a entendus là dans la bande-annonce et qu'ils ont des rôles importants.
Et le jeune ressemble beaucoup à Mélanie Douté.
Oui, très bien casté.
Quoi.
Mais il fait un sacré boulot dans ce film. Hein. Il a, le jeune homme, là, il a 15 ans. Tant mieux pour lui. Je pense qu'il se prépare une belle, une belle carrière. Excusez-moi, hein, j'ai Marnie dans la gorge. Marnie, c'était la petite chatte hein, du film d'animation. Là. Eh ben, elle est là, je l'ai dans la gorge, là, maintenant, Marnie. Voilà. Ensuite, eh ben, oh, ben, on va passer à une comédie. Enfin, c'est-à-dire, c'est pas complètement comédie, c'est comédie et drame. Oui, voilà. Bon, il y a les deux. C'est français, luxembourgeois, c'est belge, et ça s'appelle Chambre 212. Alors, Chambre 212, c'est un film de Christophe Honoré. Bon, on le connaît, hein, Christophe Honoré, on en a déjà parlé. Acteur, réalisateur, scénariste français, il a 49 ans. Oh, il a déjà eu une quarantaine de nominations. Pour son film Chambre 212, il a un prix et 6 nominations au Festival de Cannes 2019. Il a également les prix, c'est prix d'interprétation féminine. Pour, on va en parler justement, Chiara Mastroianni, qui a le rôle principal dans ce film. Et il y a une nomination également, en plus du prix et de 6 nominations au Festival de Cannes, il y a une nomination au Festival du film de Cabourg. Donc un film très très récompensé. C'est quoi ? Ben, c'est l'histoire de, après 20 ans de mariage, Maria décide de quitter le domicile conjugal. Oula. Une nuit, elle part s'installer dans la chambre 212 de l'hôtel en face. L'hôtel en face de chez elle. De là, Maria a une vue plongeante sur son appartement, son mari, son mariage. Elle se demande si elle a pris la bonne décision. Bien des personnages de sa vie ont une idée sur la question et ils comptent le lui faire savoir. C'est un film assez extraordinaire d'ailleurs, parce qu'il y a des retours en arrière sur les personnages. Enfin, c'est assez. Ça dure 1h27. Alors, donc, on a Chiara Mastroianni, qui a eu ce prix d'interprétation, qui joue le rôle de Maria, qui, je rappelle, est la fille de Catherine Deneuve et de merde, comment c'était le prénom de son papa, Mastroianni. Oui. Moi, j'excuse, hein, j'ai mal à la gorge encore. Donc, elle a deux parents, quand même, qui sont des monstres sacrés du cinéma.
Ça va nous Marcello.
Marcello. Thank you very much. Voilà. Marcello, merci Damien. Ben, c'est comme ça, hein, Caramia. Mastroianni, donc, est une grande actrice, hein, comme sa maman et son papa. Ensuite, on a Vincent Lacoste. Alors, Vincent Lacoste, il nous fait. En fait, il nous fait le personnage qui a 25 ans, le personnage de Richard. Enfin, bon, Richard, c'est le mari, hein, Richard. Et Vincent Lacoste joue celui, le mari, à 25 ans. Ensuite, on a Richard, le mari, à 45 ans, c'est Benjamin Biolay, qui a d'ailleurs été, ça c'est pas un secret, hein, qui a d'ailleurs été marié à Chiara Mastroianni pendant quelques temps, et ils sont restés très amis, ce qui prouve qu'en plus ils sont intelligents, en plus d'être doués. Voilà. Et ensuite on a Camille Cotin. Alors Camille Cotin, elle nous fait Irène Hafner, qui est dans le film, à 40 ans, et c'est Carole Bouquet qui fait Irène Hafner à 60 ans. Voilà, donc c'est deux acteurs pour un même personnage à des âges différents. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, on repart en arrière. Et puis on a la mère de Maria, c'est Marie-Christine Adam, grande actrice aussi. Voilà, donc c'est un joli casting aussi là quand même. Hein. Donc le tournage, il a eu lieu quand même. Il a eu lieu dans rue de l'Ambre. Il y a deux façades de la rue de l'Ambre à Paris. Qui ont été. Alors, il y a deux façades, non. Il y a eu le tournage dans la rue, mais il y a aussi deux façades de cette même rue de l'Ambre qui ont été reconstituées dans un studio. Deux façades. Et pour le reste, ça s'est fait au Luxembourg d'ailleurs, en février 2019. Mais pour le reste, pour le mois suivant, le tournage a eu lieu donc dans cette vraie rue qui se trouve dans le 14e arrondissement. Pour mes chéris, là, peut-être qu'il y en a qui connaissent Paris, ou qui ont vécu à Paris il y a très longtemps, ou je sais pas moi, ou qui comptent aller à Paris. C'est le quartier Montparnasse, hein, pour donner une petite idée. D'ailleurs, dans le film, Moi, je confesse que j'ai vécu assez longtemps dans Paris, c'est pour ça que j'en parle. Dans le film, on voit, on aperçoit le cinéma des sept Parnassiens et le bar Rosebud. Alors le bar Rosebud, moi je le connais pas, mais je peux vous assurer que le cinéma des sept Parnassiens, j'y suis souvent allée parce que c'est quand même un film d'art et essai. Et voilà, c'est un cinéma, pardon, d'art et essai. Et bon, il y a sept salles, bien sûr, comme son nom l'indique. C'est un film d'auteur grand public aussi, et version originale. Et c'est aussi un cinéma indépendant, hein, d'art et essai, qui se trouve 11 rue de l'Ambre pour les amateurs, pour ceux qui vont aller à Paris peut-être ces temps-ci. Voilà, et qui pourront boire un petit verre au Rosebud, qui est un restaurant-bar qui se trouve aussi, enfin, qui est pas très loin. Et qui est très joli, qui a une très jolie façade. On la voit quand on est, parce que c'est du bois, des petits carreaux. Enfin, c'est très joli. Voilà. Et ça, on le voit dans le film, absolument. Alors, pour ceux qui connaissent, c'est chouette. Ça permet de se retrouver un petit peu là-bas, comme ça. Ma foi. Et puis, c'est titré quand même. Il y a des titres assez coup de foudre pour ce film flamboyant, porté par un quatuor démon. Et c'est aussi mon petit coup de cœur, hein, quand même. Hein.
On va écouter la bande-annonce.
Chambre 212. Oui, merci. Chambre 212.
Pour le coup de cœur de...
Oui, merci, Damien.
Depuis quand, dis-moi, ta sexualité est devenue une activité extra-conjugale ?
C'est la loi des couples qui dure. Personne n'y échappe.
Sauf que moi, je t'ai jamais trompé en 25 ans.
Richard ! Richard !
Autant te dire que je désapprouve totalement ton attitude. C'est dégueulasse ce que t'es en train de me faire.
Mais Richard, comment tu peux être aussi jeune? Je suis en train de perdre ma tête.
À quel moment tu m'as prévenu que t'as comporté aussi salement une fois devenue vieille?
Je suis fou d'inquiétude, là, tu t'en rends compte?
Pourquoi avoir réveillé le passé, Maria?
C'est qui?
Richard vous a jamais parlé de sa professeure de piano? Et si vous décidiez de me rendre celui que vous m'avez pris?
Richard! Richard, ouvre pas, Richard!
Désormais, mon cœur vivra sous les...
Alors, petit résumé de votre situation. Vous venez de pousser dans les bras de votre vieux mari son amour de jeunesse, et vous en profitez pour coucher avec ce même mari, mais à l'âge qu'il avait lorsque vous l'avez rencontré.
Parce que je m'autorise une fois un écart.
Maria, nous avons la liste de tous vos écarts.
Comment ça, vous avez la liste?
Alors, qui est qui, déjà? Pierre, le cousin.
Mais qui couche encore avec ses cousins après 14 ans?
Bah tout le monde, hein.
Non, chambre 212, ça évoque rien pour toi? Article 212 du Code civil. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. Et madame est professeure en fac de droit.
Jamais plus ne connaîtront la même peur de voir s'enfuir notre bonheur. Et du reste, désormais...
Est-ce que tu sais ce que tu veux vraiment?
Chambre 212 avec Charles Aznavour pour la bande-annonce. Vous êtes toujours sur Radio Entre-deux-Mers 98.4 FM et c'est la conversation autour du cinéma. Et donc après la chambre 212 de Christophe Honoré, Anne, oui. Que nous as-tu trouvé? Que vas-tu nous proposer?
Ou alors là,
est-ce que c'est le film dont je pense?
Ben, je ne sais pas, mais je tombe dans un style un petit peu particulier, mais qui va avoir beaucoup de succès parce que ça marche beaucoup. Ça marche absolument dans le monde entier, cette série. Enfin, si on peut appeler ça une série. Ça s'appelle Joker. Alors,
c'est le Joker, voilà, le spin-off, donc, comme on dit, le spin-off de Batman avant.
Oui,
en fait, ça, c'est,
oui,
c'est un focus sur le Joker, donc la vie avant qu'il devienne Joker.
Ah oui, absolument, là, c'est sur Joker. Le Joker,
ouais. Avec un fabuleux Joaquin Phoenix.
Ah, pfff. Ben oui, mais Joaquin Phoenix, dire qu'il est fabuleux, c'est presque même... il est
dans
tout le temps.
Dans tous ses films, oui.
Voilà, il n'y a rien à dire.
Se rappelle de lui dans Gladiateur, au début, enfin, c'est peut-être pas ses premiers films, mais c'est là où il a été vraiment connu.
Ah, mais il est formidable.
Public,
il est formidable.
Dans tous ses films, il est très très bon.
Ah, ben Joaquin Phoenix, c'est un des meilleurs actuellement aux États-Unis.
Et en vieillissant, il garde toujours son charisme incroyable.
Il sait tout faire, en fait. Il sait tout faire. Il a un talent extraordinaire. Donc là, c'est quand même... il aura peut-être un Oscar, d'ailleurs. Hein. Il aura peut-être un Oscar. Là.
Pour ce film, oui.
Ah ouais, c'est possible. En tout cas, là, je commence. Mes chéris, il faut que je vous dise tout de suite que c'est interdit au moins de 12 ans quand même. Hein. Ça, c'est important. Oui, quand même. Parce qu'effectivement, c'est quand même assez. C'est un drame. Hein. C'est un drame américain et canadien hein, qui dure 2h02. Et qui a eu un prix et deux nominations au Lion d'Or à Venise. Alors c'est un, je le dis parce que c'est un fait rarissime ça. Dans le genre super-héroïque comme ça, c'est très rare qu'il y ait un prix et des nominations justement. C'est très 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 rare. C'est un film de Todd Phillips. Todd Phillips, c'est un réalisateur, scénariste, producteur américain de 48 ans qui est très 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 célèbre aux États-Unis, qui est quelqu'un qui compte énormément dans le paysage cinématographique américain, c'est sûr. Alors, le film relate une histoire originale, inédite, sur grand écran. Il se focalise, ce film, sur la figure emblématique de l'ennemi juré de Batman. Il brosse le portrait d'Arthur Fleck. Arthur Fleck, c'est le Joker. Un homme sans concession, inspiré par la... méprisé. Inspiré, je ne sais pas, mais méprisé par la société. Là, donc c'est, alors on a justement donc on a dans les rôles on a Joaquin Phoenix, on venait d'en parler avec Damien, et c'est pour ça que je pense que il va être sûrement nominé et peut-être qu'il aura un Oscar hein, ils en parlent énormément en ce moment. On a Robert De Niro dans ce film, on a Brett Cullen qui est connu aussi, on a Zazie Beetz, enfin c'est vraiment un film C'est magnifique, en fait. Hein. Mais attention, hein, interdit moins de 12 ans, parce que ça rigole pas quand même, hein, Joker. Hein. C'est vraiment un drame. Hein. Alors, Joaquin Phoenix, comme c'est un acteur jusqu'au bout des ongles, il a perdu du poids pour ce film, jusqu'à n'avoir plus que la peau sur les os. D'ailleurs, quand on le voit à l'écran, dans le film, c'est assez saisissant quand même. Hein.
Oui.
Il est très maigre. Il est maigre, mais maigre, mais... C'est terrible. La peau sur les os, c'est tout à fait ça. Hein. Alors, ah oui, c'est quand même... il a perdu 25 kilos. Je compte lui écrire, moi, pour lui demander ce qu'il a fait pour perdre 25 kilos, parce que ça m'arrangerait bien d'en perdre 5-6. Il faut que je vois ça avec lui. On ne sait jamais. Toi, Damien, non, t'es très mince, t'as pas besoin. Mais chérie, hein, si on a besoin, on verra avec, Joaquin Phoenix. C'est Joaquin... En fait, je dis Joaquin, mais on peut, je sais pas,
on dit Joaquin quand même.
Hein, parce que c'est américain quand même. Donc, il nous dit d'ailleurs, la première chose qu'il fallait faire, c'était la perte de poids. C'est par ça que j'ai démarré. Voilà ce qu'il nous dit. Parce qu'en fait, ça affecte la psychologie. Eh ben oui, quand tu perds 25 kilos, celui que t'étais 25 kilos avant n'est plus tout à fait le même que celui qui a 25 kilos en moins. Ça, c'est vrai, que ça change la psychologie de quelqu'un. Quelqu'un qui était très gros, qui un jour va devenir mince, va devenir quelqu'un d'autre dans sa tête. Ça, c'est une réalité. Hein. Donc là, effectivement, donc il nous dit après, tu commences à devenir fou quand tu perds autant de poids en si peu de temps. C'est pour ça que c'est pas conseillé de perdre 5 kilos en 2 jours, hein, c'est sûr. Hein. Il faut un certain temps parce que c'est vrai que ça rend fou. Bah, c'est parce que ça atteint le système nerveux, comme tous les régimes amaigrissants, ils sont très mauvais pour le système nerveux. Donc ça, on le sait, on le dit, on en parle beaucoup. Mais là, c'était effectivement le cas. Donc il a pris son temps pour perdre ses 25 kilos, tout en ne négligeant pas le fait qu'il fallait quand même qu'il devienne un peu fou pour tourner, pour jouer ce personnage. Eh oui. Alors il a un rire. Le Joker a un rire effroyable. Le rire de Joaquin Phoenix, d'ailleurs. Et il nous dit, en fait, qu'il ne pensait pas qu'il arriverait à trouver le rire du Joker. Alors, il s'est entraîné tout seul. Et après, il a demandé au réalisateur Todd Phillips de venir auditionner son rire. C'était quand même assez... Je pensais que j'avais besoin d'être capable de le faire sur commande devant quelqu'un d'autre. C'était très inconfortable. Ça m'a pris très longtemps. Voilà ce qu'il nous dit. Pour parvenir à créer ce rire, Joaquin Phoenix a observé des personnes atteintes de désordres neurologiques. J'ai regardé des vidéos de gens souffrant de rire pathologique, un désordre neurologique qui provoque chez ces personnes un rire incontrôlable. Moi, j'appelais ça un fou rire dans le temps, mais bon, peut-être que c'est... Non, mais je plaisante, hein, parce qu'effectivement, quand ça vient d'un problème de neurones, c'est plus du tout du coup du fou rire, hein. c'est un rire de fou quoi, un rire. Mais on l'entend dans le film, c'est assez impressionnant d'ailleurs. Alors voilà, il a pris son temps pour choisir le rôle, et puis finalement, il s'est décidé, parce que bon, on passe pas à côté d'un rôle comme ça, à mon avis. Hein. Même si on est un grand acteur et qu'on a déjà beaucoup de travail, je pense que Joker est quand même un rôle qui j'espère, moi, hein, en tant que particulière, j'espère que ça lui amènera un Oscar quand même. Parce que là, c'est amplement mérité.
On va écouter la bande-annonce, oui, et on va se rendre compte du rire et de toute la folie du personnage de Joker.
Ah oui, le pauvre, oui.
Arthur, ça vous aide de pouvoir parler à quelqu'un ?
Ma mère, elle me dit tout le temps de sourire, de faire bonne figure. Elle m'a dit que j'avais une mission dans la vie. Mettre du rire et de la joie dans ce monde.
Arrêtez-les !
Je me fais des idées, hein. Où c'est de plus en plus la folie.
Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by.
Quoi?
If you smile to your fear and sorrow, smile. And maybe tomorrow you'll find that life is still worthwhile.
Qu'est-ce qui te fait rire? Pauvre taré!
Gotham est à la dérive. Quel lâche a pu faire ça avec un tel sang-froid? Quelqu'un qui se cache derrière un masque.
Avant, je me disais que ma vie était une tragédie. Je me rends compte. C'est une comédie.
Voilà le Joker.
C'est fou, mais c'est vachement bien fait.
Ah oui, oui.
Il y a une nomination, enfin s'il y avait une nomination pour Joaquin Phoenix là, dans ce film, pour meilleur acteur, quoi, ça deviendrait une première en fait, hein, pour une adaptation de comics.
Ouais. Oui.
D'accord. Alors il y avait eu un prix, le meilleur second rôle pour un autre film sur Joker, là, qui était, le rôle était joué par Heath Ledger. Il avait déjà joué, lui, le Joker dans un film précédent. Il avait eu la nomination, il avait été nominé pour le meilleur second rôle. Mais Heath Ledger, enfin, on le sait, est mort. Hein. Il est décédé à 25 ans. Voilà, donc, qui était fabuleux. Hein, en Joker, il était fabuleux. C'était une place qui était difficile à prendre, hein, après l'autre, justement, qui avait été absolument... époustouflant dans le rôle Heath Ledger. Donc, c'était pas évident. C'était un sacré boulot là pour Joaquin Phoenix. En plus, bon, il est alors le méchant. Dans le film, Robert De Niro, lui, il interprète un animateur de télévision arrogant, proche du personnage campé par Jerry Lewis dans La Valse des Pantins. On se souvient de ce film de Martin Scorsese où une malade, une folle enlève un animateur très célèbre. Voilà, donc c'est la même chose. Là, hein, là. Sauf que cette fois, les rôles sont inversés. C'est Joaquin Phoenix, il campe le comédien, loser, face à De Niro en magnat du petit écran. Donc les rôles sont inversés par rapport à La Valse des Pantins. Mais c'est, voilà, qui était aussi un film, qui était quand même assez terrible aussi, hein, La Valse des Pantins. C'était déjà... Voilà, donc là, c'est Joker, donc c'est sur lui, et non pas sur Batman, hein. C'est pas un film sur Batman, on est bien d'accord, c'est un film sur le Joker. Ce pauvre homme qui s'appelle en réalité Arthur Fleck, et qui est complètement méprisé par la société, ce qui l'a rendu complètement fou d'ailleurs. Ça dure 2h02, alors au départ, ça devait durer presque 3h, et puis Todd Phillips a fait des coupes, on ne sait pas quelle coupe il a faite, parce qu'il n'en parle pas, mais il a coupé pour que ça... que le film arrive à 2h02 au lieu de 3h au départ. Bon, sans doute qu'il a pensé, lui, le réalisateur, que c'était nécessaire. Hein. De toute façon, un jour, peut-être qu'on verra les 3h, en fait, avec les coupes. Ça arrive quelquefois, ça, qu'après, on passe un film, on nous donne les extraits de coupes. Quand on achète le DVD, par exemple, on a des fois des extraits de coupes de scènes qui n'ont jamais été vues et peut-être qu'on les aura un jour. C'est une demi-heure quand même. Non, presque une heure, qu'est-ce que je raconte ? Une heure de coupe. Voilà, Joker. Ouais. T'as vu, le rire était quand même assez...
Oui.
Ouh, c'est assez vrai prenant, que si quelqu'un se met à rire ici, comme ça, à côté de nous, on s'en va, non ? On quitte le studio, t'es bien d'accord ? Courageusement, bien sûr. Ben mes chéris, hein, à vous de voir, interdit au moins de 12 ans. Si vous aimez ce personnage, franchement, là, ce serait dommage de le louper. Moi, je vais le voir en entier parce que j'aime beaucoup le personnage de Joker quand même. Enfin, pas ce qu'il est, hein, mais au cinéma, quoi. Je trouve que c'est assez extraordinaire. Ensuite, j'ai un film d'action, drame aussi, c'est un peu tout. C'est français, ça s'appelle Sœur d'armes. Alors, il y a un avertissement là, hein. Il y a des scènes, des propos, des images qui peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. Ça, c'est important, hein, d'en tenir compte. L'histoire de deux jeunes Françaises, Kenza et Yaël, qui rejoignent une brigade internationale partie se battre aux côtés des combattantes kurdes. Leur quête croise celle de Zara, une rescapée yézidie. Issues de cultures très différentes, mais profondément solidaires, ces sœurs d'armes pansent leurs blessures, en découvrant leur force et la peur qu'elles inspirent à leurs adversaires. Alors, c'est un film, ça dure 1h52. C'est un film de Caroline Fourest. Caroline Fourest est une réalisatrice scénariste. Elle est française de 44 ans. On la connaît, Caroline Fourest. On l'a déjà vue en interview, mais pas pour du cinéma. C'est parce qu'elle est essayiste, elle est journaliste, réalisatrice de documentaires. Donc, elle a souvent été interviewée... c'est quelqu'un d'assez passionnant d'ailleurs. Et elle nourrissait des envies de cinéma depuis très longtemps. C'est ce qu'elle dit en tout cas. Donc elle a fait des courts-métrages aussi. Elle était un peu prise par ses activités, donc elle n'avait pas le temps de réaliser un long-métrage et elle s'était cantonnée dans les courts-métrages et les documentaires. Donc la réalisatrice nous dit, concernant les sœurs d'armes, dans cette guerre, au cours d'une même vie, des femmes sont passées du sommet de l'oppression, c'est-à-dire être vendues comme esclaves sexuelles, au sommet de la puissance, prendre les armes pour se venger de leurs bourreaux. Je ne crois pas qu'une guerre ait connu une telle apogée, nous dit-elle, comment ne pas avoir envie d'une épopée plus cinématographique. Voilà comment elle explique... pourquoi elle a eu envie de faire ce film. C'est un très beau casting, en fait. Hein. On a Dylan, Quinn, c'est Zara. On a Amira Kazar, c'est la chef kurde, Amira Kazar, dans le film. On a Camélia Jordana, on la connaît, Camélia Jordana, on a déjà parlé d'elle ici à l'antenne. On a Esther Garel, de la famille des Garel, tous dans le cinéma, hein, que ce soit son père, son grand-père, c'est, voilà, toute la famille Garel, ils sont tous très doués d'ailleurs. Elle est là, on a Pascal Grégory et Mark Ryder, deux. Alors Mark Ryder, elle le voulait absolument en fait, elle le voulait dans son film Caroline Fourest. Oui, elle le voulait parce qu'elle l'avait trouvé formidable en le voyant jouer le rôle de César Borgia dans la célèbre série télévisée. Donc elle l'a vu, elle a eu un coup de foudre pour cet acteur, pour son jeu bien sûr. Donc elle l'a eu, elle le voulait, elle l'a eu. Et alors on a... alors Dylan Gwynne, en fait, elle fait Zara. Dylan, je ne sais pas si on dit Dylan, c'est un I, je ne sais pas trop. C'est une actrice française, hein, enfin, qui tourne en France avec Camélia Jordana, Mira Kazar. Elles sont très, c'est très bien qu'elles se retrouvent toutes les trois. Trois grandes actrices, trois. Ouais. Voilà, c'est un beau film. Sœurs d'armes.
Et on va écouter la bande-annonce.
Ah oui, merci Damien, j'allais justement te demander. Oui.
À cette époque, je ne savais pas ce qu'ils pouvaient nous faire. Ni à quel point cette guerre allait me changer.
Et elle, c'est qui ?
Nos forces spéciales.
C'est aussi une révolution féministe, non ?
Notre révolution ne connaît aucune frontière.
Durant des milliers d'années, les hommes en guerre sont passés sur le corps des femmes. Et ici, pour la première fois, ils nous craignent.
Pitié, laisse-moi être tué par un homme.
Il n'y a pas d'homme ici.
J'ai décidé de rejoindre mes sœurs d'armes pour venger mon père et sauver mon frère.
C'est quoi ton nom ?
Zara.
Moi, c'est Laura. Et celle qui conduit, c'est American Sniper. La chef, on l'appelle la Lionne de Kobane.
Bien joué.
Une fois qu'on n'a plus besoin d'elle, les femmes sont effacées de l'histoire, effacées de la société et renvoyées chez elles pour être des esclaves. Mais pas cette fois.
Un film de Caroline Fourest,
oui,
donc Sœur d'armes.
Oui, j'ai dit, mais c'est une. En fait, c'est une actrice kurde, hein. Qui tourne en France, mais c'est une, elle est kurde. D'ailleurs, elle a eu du mal un peu à la trouver. Hein. Elle a regardé sur l'a regardé sur Internet. Elle cherchait une comédienne kurde, quand même plutôt. Bon, c'est comme ça qu'elle l'a trouvée. Hein. Elle a tapé sur comédienne turque, tout simplement, sur Internet, comédienne kurde, et elle l'a trouvée. Elle a trouvé sa photo, elle a vu qu'elle avait peut-être pas beaucoup joué, mais qu'elle était à l'affiche d'une série pour adolescents, voilà, et qu'elle crevait l'écran. Voilà ce qu'elle dit sur elle. Mais elle est en France, mais c'est une comédienne kurde. Et au fait, je disais, oui, on dit que Zara est une réfugiée, yézidi. Alors yézidi, ben, c'est quoi le yézidisme ? Ben, le yézidisme, ça s'appelle aussi la religion des sept anges. J'ai quand même regardé un peu. Mais chérie, pour vous dire un peu, c'est une religion monothéiste de la communauté ethno-religieuse yézidi. Elle est présentée, en fait, par ses pratiquants comme plongeant ses racines dans l'Iran antique. Les yézidis forment une minorité confessionnelle. Voilà, c'est important de savoir ce que c'est que les yézidis, parce que ça explique beaucoup de choses dans le film, concernant justement Zara, la réfugiée, et les rapports qu'elle va avoir avec les autres, puisque on insiste bien pour dire qu'elles vont se retrouver de cultures très différentes, hein, mais elles sont profondément solidaires, ces femmes. C'est ça qui est chouette, justement, quand on est de culture différente et qu'on peut quand même être solidaire. Ça, c'est le rêve, évidemment. Eh oui, le rêve absolu. Mais bon, on n'est pas encore tout à fait rendu là, mais ça viendra sûrement. Ça viendra. Voilà, Sœur d'armes. Très beau film. Et puis, j'avais un document français, là, un documentaire, pardon, français, Quelle folie. Ben oui, c'est le titre. Quelle folie. Aurélien est charmant, mais il est tourmenté. Aurélien est volubile, mais il est solitaire. Aurélien se sent inadapté, mais il a tout compris. Aurélien est autiste. Filmé, il a délié sa parole, libérant un chant d'une intensité prodigieuse, un miroir tendu vers nous. Alors c'est un film, un documentaire de Diego Giovemattori. Non, c'est Jove, pas Joe, c'est Giovemattori. C'est un réalisateur, scénariste, chef monteur français de 38 ans. Et il a, alors le film a pris du jury jeune au festival Corsica à Ajaccio, Corsica documentaire à Ajaccio. Il est passé dans beaucoup de festivals. Il est récompensé, il a plein de récompenses en fait. Hein. Il a le Grand Prix documentaire, prix Michel Mitrani. Il a le FIPADOC aussi, il a un prix au FIPADOC, le FIPADOC à Biarritz. Enfin voilà, plein de prix quoi. C'est voilà, le prix Mitrani en fait c'est une récompense qui c'est un prix qui récompense le meilleur premier ou second film dans les sélections documentaires nationaux, documentaires internationaux, documentaires musicaux, etc. Donc il est très primé ce film, il est très beau. Il a été présenté aussi aux États généraux du film documentaire à Lussas. Lussas c'est en Ardèche, hein, en région Auvergne, Rhône-Alpes. C'est titré « Un monde de sensations saisissant », un film de bruit et de fureur. Quelle folie, 1h27. C'est très beau. Et Aurélien est très attachant, c'est un personnage, c'est un personnage qu'on a envie d'approcher, et il est très attachant, très. Ah, je voulais absolument en parler parce que c'est beau. Beau comme tout. Et puis, j'ai un drame aussi, j'allais l'oublier, j'ai un drame français, algérien, belge, qatarien, qui s'appelle Papicha. Alors, Papicha, ça se passe à Alger dans les années 90. Nejma, 18 ans, étudiante, habitant la cité universitaire, rêve de devenir styliste. À la nuit tombée, elle se faufile à travers les mailles du grillage de la cité avec ses meilleurs amis pour rejoindre la boîte de nuit où elle vend ses créations aux papichas. Les papichas, c'est quoi? C'est des jolies jeunes filles algéroises. La situation politique et sociale du pays ne cesse de se dégrader. Refusant cette fatalité, Nejma décide de se battre pour sa liberté en organisant un défilé de mode, bravant ainsi tous les interdits. Ça se passe dans les années 90, hein, je rappelle. Hein. Donc, effectivement, la situation n'était pas très bonne à cette époque-là. C'est un film de Mounia Medour, c'est son premier long métrage, réalisatrice scénariste franco-algérienne. Elle a surtout réalisé des documentaires jusqu'à maintenant. Et là, elle s'est lancée dans le long métrage. Alors, je disais, hein, les papichas sont de jolies jeunes filles algériennes, drôles et libérées. Voilà, c'est un mot typiquement algérois. Alors pourquoi elle l'a pris comme titre. Le tournage a eu lieu à Alger. Voilà. La réalisatrice, elle voulait absolument, elle a pris Lina Koudri, qui joue le rôle de Nejma. Lina Koudri, c'est une Algérienne, hein, une actrice algérienne. Elle voulait absolument que son héroïne soit algérienne, Mounia Medour. Elle y tenait absolument. Ensuite, on a Chirine Boutella dans les rôles principaux, Amira Hilda Daouada. Voilà, j'ai trouvé que c'était beau, ça valait la peine. Les papichas, elles sont très touchantes d'ailleurs, finalement. Dans le film, on entend beaucoup de France-arabe. Du France-arabe, c'est quoi du France-arabe? Ben, on prend un mot français et on l'algérianise et puis on mélange sans cesse les idiomes, voilà. C'est-à-dire le parler, hein. Le parler propre à une région ou un groupe social, c'est ça l'idiome. C'est une langue, un dialecte. Voilà. Il y a beaucoup de France arabe. C'est marrant, ça. Il y avait là. Eh oui. Il y a le franglais qui existe. Le franglais, on sait ce que c'est. Hein. C'est-à-dire qu'on parle français, on francise les mots anglais ou on fait le contraire. Ça s'appelle le franglais. Eh bien, là, c'est le France arabe. Voilà. Le France arabe. Qui est parlé dans ce film. Je ne sais pas si c'est drôle, le France-arabe, mais le franglais, c'est quelque chose de très drôle. Hein. C'est beaucoup d'humour dans cette façon de pratiquer, là, de prendre des mots et de les transformer. C'est sympathique. Et puis, on va finir par un documentaire britannique-américain qui s'appelle « Pour Sama ». J'ai trouvé que c'était joli aussi. C'est l'histoire de Wad Al-Kateb, qui est une jeune femme syrienne qui vit à Alep, lorsque la guerre éclate en 2011. Sur les bombardements, la vie continue. Elle filme au quotidien les pertes, les espoirs et la solidarité du peuple d'Alep. Wad et son mari médecin sont déchirés entre partir et protéger leur fille, Sama, ou résister pour la liberté de leur pays. Voilà pourquoi ça s'appelle Pour Sama. C'est le nom de leur fille. Alors Alep, pour situer, hein, c'est dans le nord-ouest de la Syrie. Hein, voilà, c'est situé à peu près là. Donc le film est de Wad Al-Kateb, justement, et de Edward Watts. C'est une co-réalisation. Elle, c'est une réalisatrice donc syrienne. Elle est productrice, elle est directrice de la photographie. Et Edward Watts, c'est un réalisateur scénariste britannique. Ils se sont donc alliés pour réaliser ce documentaire. Il y a un prix au Festival du film britannique de Dinard en 2019. C'est le prix Hitchcock Coup de cœur. Et puis, il y a un autre prix, L'œil d'or, au Festival de Cannes en 2019. Donc, deux prix pour ce documentaire, pour Sama. Alors, en fait, ce documentaire, c'est le récit de la vie de la réalisatrice, hein, qui est une activiste syrienne. Elle a une grande responsabilité. Elle disait, j'ai une grande responsabilité envers ma ville, ses habitants, nos amis, etc. Quoi. Il fallait que je raconte leur histoire afin qu'elle ne soit jamais oubliée, cette histoire, justement, et que personne ne puisse déformer la réalité de notre vécu. Voilà pourquoi elle a tourné ce documentaire avec Edward Watts. Ça dure 1h35. Voilà, je trouvais que c'était très beau. Et je voulais vous le citer, mes chéris. Alors, pour ceux qui aiment... juste une petite info, pour ceux qui aiment Alex Lutz, on en a souvent parlé aussi comme acteur. Eh bien, justement, il va se produire, lui, se produit en one-man show. Si vous êtes intéressé aux Folies Bergères, si vous allez dans ce coin-là, on ne sait jamais, ça va se passer entre octobre et janvier 2020, où il fait un one-man show. Et comme c'est un acteur quand même qui est vraiment délicieux, qui est vraiment... voilà, c'était juste une info pour ceux qui iront peut-être à Paris... en octobre ou au mois de janvier, c'est-à-dire octobre, novembre, décembre, janvier quand même. Hein. Donc en octobre 2019 jusqu'en janvier 2020, il se produit aux Folies Bergères. Alex Lutz, voilà, j'ai pris l'info parce que je trouvais que ça valait la peine. Bien, bah écoute Damien, merci pour tes...
Merci à toi.
Voilà, pour tes bandes annonces.
Avec plaisir.
Merci aussi, mes chéris, de nous recevoir chez vous comme ça, si gentiment. Préparez un thé, s'il vous plaît, mais je préfère thé à la menthe, hein, si ça ne vous embête pas, avec un petit peu de menthe quand même, ça fait, voilà, c'est bien agréable. Et puis en attendant quand même, n'oubliez pas d'aller au cinéma, dans les salles de proximité, chaque fois que vous le pouvez, vous savez qu'ici, nous, hein, à Radio Entre-deux-Mers, on défend ces salles-là, on voudrait qu'elles restent, qu'elles perdurent longtemps, 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 longtemps. Et surtout, n'oubliez pas que je vous aime. Bisous. Bisous.
Silence.
Yeux, tu sais.